Donc, nous sommes à la deuxième étape, invariance et variation, et approche paramétrique. Alors, donc, l'invariance et la variation, c'est une question tout à fait centrale en syntaxe comparative, en linguistique comparative en général. Quand on compare les langues, la première propriété qui nous frappe est la variation, bien sûr. Les langues peuvent varier à tous les niveaux. Les sons, évidemment, sont différents, et même des entités plus petites, comme les traits distinctifs, les syllabes, et puis les morphèmes, la morphologie, la syntaxe, clairement. Même dans une certaine mesure, la sémantique. Alors, la variation sémantique, c'est un point plus discuté, moins évident, en tout cas. Mais quand on parle de phonologie, morphologie, syntaxe, c'est tout à fait évident. D'ailleurs, si on conduit une comparaison systématique, rigoureuse, on découvre qu'il y a un noyau de propriétés invariantes. Donc il n'y a pas seulement la variation, il y a aussi l'invariance. Il y a des propriétés universelles. On a déjà vu un certain nombre de propriétés universelles dans la première partie. L'assemblage est une propriété universelle. On a vu toutes les langues l'utilisent, et toutes les langues l'utilisent de manière récursive. Il y a des principes de localité qui ont une portée universelle. Il y a des principes d'interprétation des pronoms, des anaphores, etc., qui ont une portée universelle. Donc il y a l'invariance et la variation. Et évidemment, la possibilité même d'une linguistique générale dépend de l'existence d'un noyau de propriétés invariantes. Autrement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de général sur le langage humain ? En effet, le père fondateur de la discipline, Ferdinand de Saussure, s'était posé la question en ce terme. Dans le cours de linguistique générale, nous disons que la tâche de la linguistique sera, premièrement, de faire la description et l'histoire de toutes les langues qu'elle pourra atteindre, et deuxièmement, de chercher les forces qui sont en jeu d'une manière permanente et universelle dans toutes les langues, et de dégager les lois générales auxquelles on peut ramener tous les phénomènes particuliers de l'histoire. Donc il y a l'invariance et la variation. Il y a la variation qu'on constate en décrivant les langues particulières. Il y a l'invariance, il y a ces forces permanentes et universelles, et ces lois générales. Et il faut systématiquement regarder les deux niveaux dans cette discipline. Si on pense au modèle de grammaire générative avec lesquels on essayait d'aborder ces questions d'invariance et variation, donc des modèles anciens maintenant, des modèles pré-paramétriques, donc avant cette notion de paramètre dont on va parler, des modèles des années 50, 60 et 70, on voit que le système était axé sur deux notions qui sont restées en quelque mesure les mêmes, mais avec des différences conceptuelles importantes. Donc, d'un côté, la grammaire particulière, qui est la grammaire précise d'une langue particulière, la grammaire du français, de l'anglais, du chinois, etc., conçue comme un système de règles. Donc, il y a des règles formelles qui correspondent à cette organisation grammaticale. Et puis, il y a, à un niveau plus général, une grammaire universelle qui, dans ce type de système, était une sorte de métathéorie grammaticale, donc une théorie des grammaires particulières, si vous voulez, et qui spécifiait le format possible des règles grammaticales. Donc, disait, voilà la forme de règles que je peux trouver dans les langues particulières et certaines conditions générales sur l'application des règles. Voilà, un problème fondamental de ce type d'approche était qu'il n'était pas suffisamment descriptif. Il laissait trop de liberté au niveau des grammaires particulières. Donc, la caractérisation du format des règles au niveau de la grammaire universelle laissait beaucoup trop d'options, ce qui faisait que on pouvait considérer toutes sortes de systèmes qui n'étaient pas, en effet, attestés dans la comparaison linguistique. Et ceci posait aussi un problème au niveau de la prénabilité, c'est-à-dire comment est-ce que l'enfant fait pour apprendre la grammaire à laquelle il arrive. Étant donné l'énorme dimension de la classe des possibilités grammaticales définie par ce système, il était assez mystérieux comment l'enfant, en relativement peu de temps, peut arriver à converger vers les propriétés du système qui lui est présenté. Donc on définit ces problèmes, des problèmes d'apprenabilité. Le concept de paramètre a été introduit de manière abstraite par Chomsky dans son ouvrage de 1975, Conditions and Rules of Grammar, où on dit, entre autres, « There are limits to the possible diversity of grammar. Cross-linguistically variable conditions can be regarded as parameters that have to be fixed in language learning. » Donc il y a cette idée abstraite. Il y a des paramètres. Fondamentalement, un paramètre est un point de choix. Hein? Donc le système peut prendre l'option A ou l'option B. Donc, du point de vue de l'apprentissage, on peut envisager que l'apprentissage de la syntaxe est une opération de parameter setting, donc de fixation de paramètres en ce sens. Puis, dans la dernière partie des années 70, on a commencé à explorer concrètement les premiers cas de paramètres. Le tout premier cas, quelque chose que j'avais discuté, et qui était lié à la théorie de la localité. Mais c'est un cas qui, rétrospectivement, n'est pas un cas très clair de paramétrisation, parce que les jugements et les points de différence entre les langues ne sont pas aussi clairs qu'on voudrait. Par contre, un paramètre qui a été tout de suite pris en considération est le paramètre du sujet nul. Voilà, mais je veux d'abord présenter en général le système des principes et paramètres, ce qu'il a été proposé à partir du début des années 80. Donc dans ce système, et un système général, la grammaire universelle, qui est un système qui exprime des principes qui ont une portée universelle et des paramètres qui sont des points de choix. La grammaire particulière dans ce système est la grammaire universelle avec les paramètres fixés d'une certaine manière. Donc, par exemple, la grammaire particulière du français est la grammaire universelle avec un ensemble de valeurs paramétriques. La grammaire du chinois est la grammaire universelle avec un autre ensemble de valeurs paramétriques, et ainsi de suite. Vous voyez, la grande différence entre ce système et le système pré-paramétrique est qu'ici, la grammaire universelle n'est pas une métathéorie grammaticale, mais est une partie intégrante de la grammaire d'une langue. Donc, une grammaire particulière est en effet la grammaire universelle avec les paramètres fixés d'une certaine manière. Et l'acquisition de la syntaxe n'est plus vue, comme dans les systèmes précédents, comme une opération extrêmement problématique d'induction des règles dans un système qui permet une grande quantité de règles, mais comme une opération qui est beaucoup plus faisable, beaucoup plus facile à manier, donc une opération de fixation de paramètres, de choix entre deux options dans une série de cas. Parmi les conséquences de ce système, il y a eu la création d'un langage technique extrêmement riche, extrêmement puissant, et qui a montré une grande capacité heuristique. En effet, il n'y avait pratiquement pas d'études comparatives avant les systèmes paramétriques. Quand j'étais étudiant ici à Paris, dans la période immédiatement pré-paramétrique, quand on pensait vraiment à ces systèmes comme des systèmes de règles, je me souviens que j'essayais, par exemple, d'écrire la grammaire générative de l'italien en la comparant avec la grammaire générative du français telle qu'elle avait été conçue par mes professeurs Ruvet et Richard Kane. Et c'était assez frustrant parce qu'on arrivait à des systèmes de règles qui avaient un certain air de famille, hein, qui avaient certaines similarités, mais sans vraiment pouvoir indiquer avec précision ce qui restait invariable et ce qui variait. Hein. Les choses ont changé radicalement avec l'introduction du concept de paramètres. Maintenant, on peut très bien indiquer ce qui est constant, hein, invariant, et ce qui varie à travers les langues. Donc une très forte impulsion des études comparatives dans le cours de 10 ans environ, le domaine de la syntaxe comparative a vraiment fleuri d'une manière extraordinaire. Et aussi les études de l'acquisition ont été développées. Le modèle paramétrique est en effet totalement compatible avec certaines découvertes empiriques sur le caractère sélectif de l'apprentissage, n'est-ce pas ? Il y a cette manière d'apprendre, par exemple, l'ensemble des traits distinctifs qui sont valables dans telle ou telle langue, qui a été mis en relief par les psycholinguistes de l'acquisition, en particulier par Jacques Meller. Ces psycholinguistes utilisent le terme d'apprentissage par l'oubli en proposant le mécanisme d'apprentissage sélectif du type suivant. Initialement, le bébé a en quelque sorte toute la connaissance, en particulier du système des traits distinctifs. On peut voir expérimentalement que le bébé est sensible à tous les traits distinctifs qui peuvent être utilisés par les différentes langues du monde, hein, que sa future langue utilise ce trait ou non, le bébé est sensible à cela. Mais dans le cours de la première année de la vie, le bébé arrive très rapidement à se focaliser uniquement sur les traits distinctifs qui sont pertinents dans le système qui lui est présenté. Donc on parle d'apprentissage par l'oubli, en quelque sorte. Apprendre une langue veut dire oublier toutes les autres langues. Ça, c'est une très belle image qui correspond tout à fait aussi à l'acquisition de la syntaxe comme fixation de paramètres. Fondamentalement, l'enfant, au début, a toutes les possibilités ouvertes et ensuite l'expérience a le rôle d'éliminer certaines de ces possibilités et en garder d'autres. Et ceci est aussi compatible avec ce qu'on sait sur les bases neurales de l'apprentissage, telles qu'ils sont étudiées, par exemple, par Jean-Pierre Changeux et par Stanislas Dehaene, dans des travaux qu'ils ont présentés aussi ici au Collège de France. Voilà, donc voyons le premier paramètre qui a été étudié en détail. Comme je disais, le premier qui a été proposé comme premier cas de paramètre était un cas qui a posteriori s'est révélé moins clair, mais le paramètre du sujet nul, dont on a beaucoup parlé dans les années 80, est un cas extrêmement clair. Alors, vous parlez tous ou bien une langue à sujet nul, ou bien une langue qui n'a pas de sujet nul ici. Hein. Donc, comparons pour le moment, en limitant la comparaison aux langues romanes et à l'anglais, qui était un peu la base de la syntaxe générative comparative à la fin des années 70, au début des années 80. Alors là, on voit qu'il y a certaines langues, comme l'italien ou le roumain, qui permettent la non-expression du sujet pronominal. Donc, vous pouvez dire « io parlo italiano » ou bien « parlo italiano » avec omission du pronom sujet. Même chose en roumain. En français, non, je parle l'italien. « Parle l'italien », ce n'est pas possible comme déclarative, c'est bien sûr forme impérative possible, mais l'impératif fonctionne d'une autre manière. Même chose en anglais, I speak Italian, pas possible d'avoir simplement speak Italian. Les langues à sujet nul, en ce sens, utilisent le sujet nul aussi comme pronom non référentiel, par exemple avec le verbe atmosphérique, piove, tandis que le français et l'anglais ont besoin d'un sujet réalisé, même là où il n'y a pas un rôle thématique, en tout cas pas un rôle thématique expérimental, comme avec les verbes atmosphériques. Il pleut, it is raining, etc. Puis, il y a d'autres options. Dans des langues comme l'italien, on vient de voir ça, on a l'option d'avoir le sujet en position préverbale, Gianni ha telefonato, mais aussi de l'avoir en fin de phrase, ha telefonato Gianni. Même chose en roumain, En français, non. Jean a téléphoné, mais a téléphoné Jean, ce n'est pas vraiment une phrase possible. Le français a bien sûr l'inversion stylistique. Qu'a fait Jean, qu'a dit Jean, n'est-ce pas, c'est la structure possible. Mais c'est un autre type d'inversion, c'est une inversion déclenchée par un certain élément, ici l'élément interrogatif. L'anglais, bien sûr, John telephone n'alterne pas avec telephone John, tout à fait impossible. Puis il y a d'autres propriétés un peu plus subtiles, par exemple, la présence ou absence d'effets complémentaires traces. Des langues comme le français et l'anglais montrent un effet complémentaire trace. Par exemple, en anglais, vous ne pouvez pas sortir tout simplement le sujet d'une phrase subordonnée sans rien faire d'autre. Donc, à partir de « you think that somebody will come », vous ne pouvez pas former l'interrogative « who do you think that will come ?» C'est bizarre. En français, même chose. Tu crois que quelqu'un viendra, quelque chose comme qui crois-tu que viendra. Si vous ne faites rien, vous ne modifiez pas un tout petit peu la structure, c'est une structure bizarre. Dans des langues comme l'italien ou le roumain, pas de problème. Qui credi che verrà, tout à fait possible. En roumain, cine crezi che va veni, tout à fait possible. Hein? Donc, il y a cet effet complémentaire trace qui traite le sujet comme une position d'où on ne peut pas bouger ultérieurement, essentiellement. C'est un peu ces effets de gel dont j'ai tout brièvement parlé avant. Mais ces effets ne se trouvent pas du tout dans les langues sujet nul, en tout cas dans l'inventaire de langues sujet nul qu'on voit ici. Et puis, autre propriété, ce qu'on appelait la généralisation de Taraldsen. Taraldsen a comparé, linguiste norvégien Taraldsen, que l'expression morphologique de l'accord est riche dans des langues comme l'italien ou le roumain, dans un sens où elle ne l'est pas dans des langues comme le français et l'anglais. Vous avez un paradigme d'accord très bien différencié dans ces langues, vous voyez ici pour le présent de l'indicatif, mais n'importe quelle forme verbale, on trouve ça. En français, vous avez beaucoup moins de formes. Il ne faut pas regarder les formes écrites, bien sûr, mais les formes orales. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle, encore identique. Donc, il n'y a que trois formes par rapport aux six formes du paradigme virtuel. Et donc, l'idée de Taraldsen est que dans ces langues, il y a beaucoup moins de richesse dans la réalisation de l'accord. Et en anglais, c'est encore moins riche. Speak, speaks. Et c'est tout. Si vous prenez les formes du passé, il n'y a même pas de différenciation du tout. Spoke pour tout le paradigme. Donc la généralisation de Taraldsen est la suivante. Dans cet ensemble de langues, on voit que l'option du sujet nul est typiquement manifestée dans des langues qui ont une manifestation riche, morphologiquement riche, de l'accord. Il y a une chaîne déductive qu'on peut établir entre ces différentes propriétés. Donc d'abord le paramètre, supposons de prendre une version de la théorie de Taraldsen et dire qu'un pronom nul, un pronom non prononcé, qu'on appelle pro, est légitimé par l'accord verbal riche. Donc il y a des langues qui ont l'accord verbal riche et qui admettent cette légitimation, et des langues où cela n'est pas possible. Donc en anglais, vous devez avoir un pronom réalisé. Ensuite, ce pronom nul peut fonctionner comme pronom référentiel ou comme pronom non référentiel. On parle ici d'explétif, le pronom sujet d'un verbe comme pleuvoir, ce qu'on appelle un explétif. Donc, ce fameux pronom nul peut fonctionner comme sujet d'un verbe atmosphérique, par exemple. En anglais, on n'a pas cette option. Ensuite, en prenant certains principes sur l'organisation de la phrase, selon lequel la position sujet est toujours obligatoire. Donc il y a toujours une position sujet initiale suivie d'un prédicat, dans un tag verbal. Et en admettant que cette position sujet est toujours obligatoire, dans une langue comme l'anglais, on ne peut pas se permettre d'avoir le sujet thématique dans une autre position, par exemple en fin de phrase, parce qu'il n'y a rien de légitime qui remplirait la position canonique de sujet. Tandis que dans des langues comme l'italien, il y a une option, il y a ce fameux pronom nul qui peut fonctionner comme explétif, donc valeur non référentielle, en permettant au sujet thématique de se trouver dans une autre position, ce qui permet l'inversion libre, ainsi dite libre, qu'on observe en italien. Ensuite, la position de sujet, comme je disais, est une position qui typiquement n'admet pas de mouvement ultérieur. C'est quelque chose qu'on essayera de développer par la suite. Et donc, dans une langue comme l'anglais, par exemple, vous avez l'effet complémentaire trace. Would you think that will come? Who serait déplacé de cette position? Mais on violerait cette contrainte d'impossibilité de mouvement ultérieur qu'on spécifiera par la suite. Dans des langues comme l'italien, il y a une autre option, c'est-à-dire cette fameuse position obligatoire de sujet peut être remplie toujours par notre bouchon préféré, c'est-à-dire le sujet nul explétif, ce qui permettra le déplacement du sujet thématique d'une autre position, d'une position plus basse dans l'arbre, qui n'a pas cet effet de gel. Et donc on pourra typiquement, dans des langues comme l'italien, ne pas voir les effets complémentaires traces. Donc c'est présenté de manière très très rapide, mais fondamentalement c'est pour suggérer qu'on peut établir une sorte de chaîne déductive entre la propriété paramétrique primitive, qui est-ce que le pronom nul est possible ou non, et toute une série d'autres propriétés qui peuvent être déduites par des étapes intermédiaires, comme j'ai essayé d'illustrer de manière très rapide. Voilà, ça c'est un peu la situation au début des années 80. Puis on a essayé d'étendre la comparaison. Dès qu'on a étendu la comparaison, on a vu que les choses étaient plus complexes, évidemment. Là, on avait comparé que les langues romanes et l'anglais. On avait vu que certaines des langues romanes, en tout cas certainement le français, se comportaient comme l'anglais, langue non à sujet nul. Les autres langues romanes sont toutes des langues à sujet nul. Donc, non seulement l'italien, mais l'espagnol, le portugais, en tout cas le portugais européen, le catalan, le roumain, c'est des langues à sujet nul. En étendant un peu la comparaison, on a vu que les choses étaient plus complexes, qu'il y avait des langues à sujet nul partiel, ou seulement une partie de la phénoménologie que j'ai discutée était manifestée. Donc ces langues à sujet nul partiel en particulier n'admettaient pas un pronom nul référentiel, donc comme se référant à un certain individu dont on parlait avant, mais fonctionnant comme explétif, mais uniquement comme sujet nul explétif. Et donc ces langues à sujet nul partiel ont été étudiées dans le détail. C'est des langues très variées qui vont de l'islandais, une langue germanique, au finnois, une langue finno-ugrique, à l'hébreu, langue sémitique, au portugais brésilien. Là, c'est très intéressant de comparer le portugais de Portugal, portugais européen, qui se comporte exactement comme l'italien de ce point de vue, et le portugais brésilien, qui est une langue proche, évidemment très proche, mais qui a développé certaines caractéristiques originales. Et une propriété est justement la perte du sujet nul généralisé, comme dans le cas du portugais européen ou du brésilien. Un autre groupe de langues qui a été étudié en détail, c'est les langues d'Extrême-Orient, évidemment. Donc en chinois, par exemple, on peut avoir des sujets, des structures de type sujet, verbe, objet, et on a constaté qu'il est possible de mettre le sujet, fondamentalement comme en italien, donc avoir des formes comme B, donc à partir de Zhangzhan a vu Lizzie, on peut avoir des formes simplement comme a vu Lizzie, donc simplement avec le sujet omis. Alors ce cas avait été discuté comme une violation de la généralisation de Taraldsen. Pourquoi ? Parce que dans des langues comme le chinois, mais aussi le japonais se comporte de la même manière, le coréen se comporte de la même manière, il n'y a aucune trace d'accord morphologique dans le verbe. Donc vous avez exactement la même forme verbale, quelle que soit la personne ou nombre du sujet. Donc là, on peut avoir un sujet nul dans le cas d'une langue qui a un système d'accord extrêmement pauvre. En effet, il n'a pas du tout de système d'accord, en tout cas d'accord verbal. Mais on s'est rendu compte assez rapidement que, en effet, le phénomène ici est différent. Si je me réfère au travail très important et fondateur de Jim Huang, qui a vraiment introduit un peu le chinois sur la scène des études de grammaire générative, et donc on a observé que dans ces langues, typiquement, l'omission du sujet n'est qu'un cas particulier d'une possibilité beaucoup plus générale d'omettre n'importe quel argument. Donc non seulement le sujet, mais aussi l'objet, par exemple. Donc avoir des structures comme Zhang San a vu, simplement en omettant l'objet et en comprenant qu'il y a quelqu'un qui a été vu, bien sûr, hein, donc avec une interprétation pronominale, mais liée avec une position vide. Et le sujet et l'objet aussi peuvent être omis dans la même phrase, étant donné les conditions discursives appropriées. Donc il est clair qu'ici, nous avons un autre type de sujet nul, qui est un cas particulier d'un processus plus général d'omission d'arguments. Et évidemment, ce type d'omission d'arguments n'est pas du tout réglé par quelque chose comme la généralisation de Tarlsen. Donc vous voyez, dès qu'on commence à comparer les langues, on trouve des complications, mais on trouve aussi des manières de mieux comprendre la systématisation générale. Regardons un instant les langues africaines. Les langues africaines, comme toutes les langues du monde, se divisent en deux catégories. Il y a des langues à sujet nul et des langues non à sujet nul. En particulier, Enokabo, dont on regardera les travaux la semaine prochaine de manière plus détaillée, a observé que les langues Kwa, donc les langues africaines comme le Gumbe, le Edo Yoruba, ces deux variantes sont parlées en Bénin, mais il y a beaucoup de langues de ce type, prennent un peu le côté anglais-français du paramètre du sujet nul. Donc pas de sujet nul possible. Tandis que d'autres langues, la plupart des langues bantoues, en effet, comme le Lingala, analysé par Saloulessa dans le cas particulier, se comportent plutôt comme l'italien. Donc regardons un peu quelques faits. Et ici, peut-être, ce n'est pas très visible, mais ça devrait être relativement visible. Dans des langues Kwa, comme le Gungbe ou le Yoruba, on ne peut pas omettre le sujet. Ici, la notation étoile et puis une parenthèse, ça veut dire que si on omet le contenu de la parenthèse, on obtient une structure mal formée. Donc on ne peut pas omettre le sujet, comme en anglais, « I talked », mais on ne peut pas dire « talked » simplement. Même chose ici. On ne peut pas avoir des explétifs nuls, donc dans des structures comme l'équivalent de l'anglais « it seems that coffee came », ce « it » ne peut pas être omis. Donc il faut avoir ce « et » qui correspond à l'anglais « it » ou au français « il »,« il semble que », etc., etc. Même chose pour l'autre langue. Il n'y a pas d'inversion du sujet, donc « coffee » est venu, n'alterne pas avec « est venu coffee », pas comme l'italien de ce point de vue, même chose pour le « Edo Yoruba ». Et puis, et le « Gungbe » et le « Edo Yoruba », mais similement pour d'autres langues, ils sont sensibles, exactement comme l'anglais, exactement comme le français, à l'effet complémentaire trace. Donc, quelque chose comme « qui crois-tu que » viendra, hein, si on omet cet élément, qui crois-tu que viendra, mal formé, exactement comme en français, exactement comme en anglais. Évidemment, les langues doivent utiliser des stratégies pour acheter ces structures. Il est très utile d'avoir des manières de former une question sur un sujet subordonné, par exemple. Il y a des cas où, évidemment, il faut pouvoir faire ça. Et donc, les langues utilisent des stratégies. Le Gungbe de Yoruba utilise une stratégie qui est très simple, qui consiste à prononcer la trace, en quelque sorte, en forme de pronom présomptif. Donc, vous voyez ici un pronom. Donc, la structure est quelque chose comme « qui crois-tu que lui ou que il viendra ?» fondamentalement. Hein, même chose dans les deux langues. Donc, dans cette langue, la stratégie qui est dans ces langues, dans la langue Kwa en général, la stratégie qui est systématiquement grammaticalisée pour surmonter la difficulté de l'effet complémentaire trace, c'est d'utiliser ces pronoms réalisés. Mais, évidemment, dans ces langues, l'effet complémentaire trace existe. En effet, si on n'utilise pas cette stratégie d'évitement, on obtient des structures grammaticales, exactement comme en français, exactement comme en anglais. En ce qui concerne le paradigme verbal, voilà, donc vous voyez que la forme verbale est toujours la même pour toutes les personnes du nombre, donc il n'y a pas d'accord du tout. Et ces langues, contrairement aux langues d'Extrême-Orient, n'ont pas la stratégie d'omission généralisée d'arguments, donc n'ont pas cette possibilité que nous avons vue dans ces autres langues. Donc elles se comportent exactement comme le français et l'anglais. Voilà, donc ça, c'est un côté du paramètre. Et puis l'autre côté, le côté italien, espagnol, etc., beaucoup de langues bantoues fonctionnent comme ça, dont le lingala, discuté par Saloulessa. Dans cette langue, vous pouvez omettre le sujet, donc ici Abeti part ou elle part, vous pouvez omettre le nom ou le pronom sujet, donc part simplement est possible. Vous pouvez avoir des explicatifs nuls, semble que blablabla. Bla bla. Vous pouvez avoir avec les verbes atmosphériques un sujet nul, donc il pleut. Dans cette langue, comme dans beaucoup de langues, se dit quelque chose comme « la pluie pleut ». La pluie pleut. Donc il y a quand même un sujet référentiel dans un sens très particulier. Et on peut avoir, ce sujet peut être nul, donc on peut dire simplement « pleut ». Donc la pluie peut être omise dans ce type de langue. Ici, il y a une asymétrie intéressante par rapport à des langues comme l'italien et l'espagnol. On n'a pas l'inversion libre qu'on a vue dans ces langues. Donc, ici, à côté de Kyaku est venu, on ne peut pas dire est venu Kyaku. Donc, ici, c'est un point de différence par rapport à l'italien, l'espagnol, le roumain, etc. Et l'autre point, effet complémentaire trace. Ici, il n'y a pas d'effet complémentaire, il n'y a pas d'effet de ce type. On peut très bien déplacer le sujet d'une phrase subordonnée sans rien faire, opérer par exemple l'introduction d'un pronom résomptif ou une autre stratégie qu'on pourrait utiliser. Donc on peut très bien dire, regardons juste la traduction, Kyaku est le garçon que nous avons dit que a conduit le camion. Donc vous n'aurez pas d'effet, ce fameux effet complémentaire trace. Donc pour une très grande partie, le lingala se comporte comme l'italien, comme l'espagnol, comme le roumain. Vous voyez aussi que dans le paradigme verbal, il y a un paradigme verbal avec, d'accord avec le sujet très bien différencié. Vous voyez ici les différents cas. C'est des préfixes ici, hein, ce n'est pas des suffixes comme en italien, mais disons la morphologie de la langue a cette propriété. Donc fondamentalement, nous trouvons dans cette langue les mêmes propriétés que nous avons vues avec l'italien, sauf l'inversion. Il n'y a pas d'inversion dans cette langue. Alors cette observation qu'il fallait en quelque manière dissocier l'inversion du paramètre du sujet nul, mais pas la dissocier complètement, était cette observation d'Adriana Belletti selon laquelle l'inversion du sujet de langue comme l'italien ou l'espagnol n'est pas vraiment libre, comme on pensait avant, mais c'est une manière pour obtenir un certain effet de focalisation. Donc on peut utiliser ce sujet post-verbal quand on veut focaliser le sujet. Par exemple, la manière peut-être la plus simple de le voir, c'est de voir des paires questions-réponses. Quand vous avez une question comme « qui a téléphoné ?» en italien, la réponse naturelle, si vous voulez utiliser toute une phrase pour la réponse, on peut toujours répondre simplement « Jean » comme en français, « qui a téléphoné ?» Jean. Mais vous voulez toute la phrase pour voir la position de ce sujet. Alors, la réponse bien formée, typique, est celle avec le sujet post-verbal. Donc, « qui a téléphonato Gianni ?» Dans ce contexte où le sujet est focal, information nouvelle, parce que c'est la valeur de la variable, de la question qui précède immédiatement dans l'articulation discursive. Dans ce genre de situation, vous ne pouvez pas utiliser vraiment le sujet préverbal, donc vous ne pouvez pas répondre naturellement qui a téléphonato Gianni avec Gianni a telefonato. Il faut utiliser la structure d'inversion. Il y a des structures où, bien évidemment, on peut utiliser le sujet préverbal. Quand le sujet est déjà introduit, toujours dans des questions, dans des configurations question-réponse, quand le sujet est déjà introduit dans la question, par exemple, si vous avez une question comme « Che cosa ha fatto Gianni ?» donc « Qu'a fait Gianni ?» et puis vous voulez une petite continuation, une petite alternative, « Et Piero ?» donc vous posez la question « Qu'a fait Gianni et Piero ?» Ici, bien sûr, dans la réponse, vous pouvez avoir le sujet en position préverbale. « Cosa ha fatto Gianni ?» Gianni a telefonato. Évidemment, ici, le sujet n'est pas focal, parce qu'il est déjà introduit dans la question, hein, et donc on peut l'utiliser. Évidemment, s'il n'y avait pas cette petite alternative ici, on utiliserait typiquement le sujet nul. Donc ici, on répondrait à téléphoner. Café Jean, réponse en italien, à téléphoner, tout simplement. La raison de cette alternative est pour être sûr que vous prononcez le sujet, parce qu'il y a quand même une opposition avec quelque chose d'autre. Alors là, typiquement, vous pouvez utiliser la position préverbale, tandis que la position postverbale n'est pas utilisable en ce contexte. Donc, la position du sujet postverbal est une manière de focaliser le sujet. Selon l'analyse de Belletti, il y a une position focale basse dans la périphérie du syntagme verbal. Si on veut focaliser le sujet, on déplace le sujet dans cette position. Donc, ceci présuppose éventuellement la fixation positive du paramètre du sujet nul comme condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Si une langue à sujet nul n'a pas cette position spéciale focale basse, elle n'aura pas l'inversion du sujet. C'est le cas du lingala, d'après ce que nous avons vu. Ah oui, observons peut-être aussi cette petite chose qui nous ramène à quelque chose qu'on a vu avant. Un argument très simple, très intéressant, pour montrer que cette position postverbale en italien est une position de focalisation, consiste à utiliser un certain test pour la focalisation, qui est la possibilité de pronominalisation en arrière, ou pronominalisation rétrograde, ou coréférence rétrograde, dont on a parlé avant. Ce type de processus qu'on a vu avant est en effet exclu dans le cas où l'expression nominale est focale. Donc si vous avez un élément focal qui suit un pronom, le pronom n'est plus interprétable comme étant en connexion avec l'élément focal. Ceci est montré par des exemples en anglais. Donc « his mother likes John ». Ici « his » peut bien vouloir dire « de Jean ». Donc « his mother likes John », ça peut vouloir dire « la mère de Jean aime Jean ». Mais « his mother likes John », avec accent focal sur l'objet, ici, il n'est pas possible d'interpréter « his » comme se référant à John. Donc, ici, il y a toute une analyse intéressante à faire, hein, mais prenons simplement cette possibilité de pronominalisation en arrière ou rétrograde comme test pour la focalité d'un certain élément. Alors, on voit que, selon la position préverbale ou postverbale, on peut ou on ne peut pas avoir l'anaphore rétrograde. Exemple 3. Quando è contento, Gianni canta. Donc, quand il est content, Gianni chante. Ici, il est tout à fait possible d'avoir le pronom, ici pronom nul, comme se référant à Gianni qui vient après. Mais si vous avez le sujet post-verbal, il est tout à fait impossible d'avoir cette interprétation. Donc 4, quando è contento canta Gianni. Ici, donc quand est content chante Jean, hein, si je peux me permettre une traduction grammaticale en français. Ici, la phrase est bien sûr possible, mais on ne peut pas du tout interpréter le sujet de chanter comme étant Gianni. Ça doit être quelqu'un d'autre qui chante. Ça ne peut pas du tout être cet élément. Pourquoi ? Parce que si le sujet postverbal est toujours nécessairement focale, à partir de cette position, il ne pourra pas légitimer une pronominalisation en arrière, fondamentalement. Donc c'est simplement un autre type d'argument pour le même type de considération. Donc, en conclusion, l'analyse comparative montre que certaines langues à sujet nul, comme le lingala, ont une expression morphologique riche de l'accord verbal, la possibilité du sujet nul référentiel, l'explétif nul, l'absence d'effet complémentaire, trace, mais non pas l'inversion libre du sujet. Et ceci va bien avec l'observation de Belletti que l'inversion du sujet est en effet une forme de focalisation du sujet et que donc il faut quelque chose d'autre en plus que la légitimation du pronom nul pour permettre l'inversion du sujet. Il faut que la langue ait cette position focale basse. Certaines langues à sujet nul peuvent l'avoir, comme l'italien, d'autres, comme le lingala, ne l'ont pas et donc n'admettent pas l'inversion du sujet. Les autres propriétés restent en quelque sorte gouvernées par le paramètre du sujet nul. Mentionnons très rapidement un autre paramètre qui est très très basique et que je présente ici dans une forme simple. Les langues varient dans l'ordre entre tête et complément. Donc dans certaines langues, la tête précède le complément. Donc nous avons l'ordre verbe-objet, par exemple, mange gâteau. Dans d'autres langues, la tête suit le complément. Et nous avons l'ordre gâteau-mange, fondamentalement. Et certaines langues sont, de manière tout à fait systématique, à tête initiale, l'anglais, par exemple, ou le français aussi. Donc vous avez des arbres qui branchent systématiquement à droite. Et il y a d'autres langues qui sont très systématiquement à tête finale, et vous avez des arbres qui branchent systématiquement à gauche. Voilà donc les arbres de deux structures, respectivement en anglais et en japonais, et vous voyez que là, dans la structure anglaise, nous avons ce branchement systématique du nœud de droite, parce que le complément est toujours à droite. Donc vous avez la tête, ensuite le complément, vous avez la tête et ensuite le complément, etc. Donc vous avez systématiquement cette structure. Dans une langue comme le japonais, vous avez presque l'image miroir de cette structure. Pas tout à fait, parce que certaines propriétés, disons, chaque fois qu'il y a l'ordre tête-complément, 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 on a toujours ce branchement nécessairement à gauche. Mais il y a des propriétés qui restent constantes dans les deux langues. L'ordre sujet-prédicat est toujours comme ça, toujours sujet-prédicat dans les deux langues. Donc le sujet précède le prédicat, c'est tout le sujet précède le prédicat, exactement comme ici, le sujet précède le prédicat, c'est tout le sujet précède le prédicat. C'est pour cela que la structure du japonais n'est pas l'image miroir exacte de la structure de l'anglais. Donc, à quelques différences près, avec quelques propriétés qui restent invariantes, on peut avoir ici l'image de deux langues qui se situent des deux côtés du paramètre tête-complément. Voilà, on reviendra sur cela, mais arrivons maintenant à la formulation du système de principes et paramètres dans le cadre actuel, donc dans une grammaire minimaliste. Quel est le statut des paramètres dans ce système? Une distinction qui est utile si on veut comparer différents systèmes paramétriques, c'est la distinction entre le format et le locus des paramètres. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Le format est la forme possible de paramètre. Alors, qu'est-ce qui est un paramètre possible? Quelle est la forme possible qu'un paramètre peut assumer? Est-ce qu'il y a des choses non paramétrables qui ne peuvent pas être exprimées en termes de paramètres? donc le format, et de l'autre côté le locus, c'est-à-dire à quel endroit du système général, à quel endroit de la grammaire universelle, est-ce que les paramètres sont représentés, hein, ou est-ce qu'on écrit dans le système général la valeur paramétrique. Alors, la conception initiale était que les paramètres étaient exprimés dans les principes. Donc il y avait cet ensemble de principes de la grammaire universelle, et chaque principe contenait un ou un petit nombre de paramètres. Donc la prédiction que ce système faisait était qu'on aurait pu s'en tirer avec un tout petit nombre de paramètres, parce que les principes ne sont pas trop nombreux. Si vous prenez, par exemple, la conception classique de principes et paramètres, il y a une dizaine de modules dont chacun contient un principe. Donc, on aurait pu, en utilisant ce système, prédire l'existence de, au plus, quelques dizaines de paramètres. Dans les tout premières versions de la théorie paramétrique, dans le modèle des principes et paramètres, donc dans la théorie des années 80, voilà une petite liste de premières propriétés qui avaient été identifiées comme propriétés paramétriques possibles. Par exemple, cette question à laquelle j'ai fait une référence un peu obscure de nœuds qui comptent pour un certain principe de localité. Quels sont les nœuds qui comptent comme barrière pour définir des îlots, par exemple? Le paramètre du sujet nul, donc la possibilité de légitimer un pronom nul, on vient de discuter ça. Des paramètres comme la sélection que certains verbes peuvent avoir, on va discuter ça dans deux minutes, un verbe comme « croire » en français et en anglais se comporte de manière assez différente sur la base des compléments qu'il peut sélectionner. Par exemple, « believe » peut prendre une infinitive avec une structure accusative infinitive. Donc, par exemple, « I believe John to be a nice guy ». Okay? Ce genre de structure n'est pas possible dans les langues romanes. Donc, il y a une différence dans le type de structure qui est sélectionnée par ces verbes. Donc, il y a là une sorte de paramètre sur la sélection verbale. Là, il y a une autre différence importante entre, par exemple, l'anglais et la langue romane. En anglais, on sait qu'on peut laisser une préposition toute seule dans des cas de mouvement. « Who did you talk to ?»« To » ne doit pas nécessairement suivre l'élément « who » qui est déplacé en début de phrase. Dans la langue romane, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire « qui as-tu parlé à », n'est-ce pas? Donc il y a là une différence paramétrique. Selon Kane, c'est une différence sur la manière d'assignation de « cas » de la part de la préposition. En tout cas, ça, c'était une autre différence paramétrique qui était identifiée. Puis on a vu la paramétrisation tête-complément ou complément-tête. D'autres paramètres de mouvement. Dans certaines langues, le verbe se déplace à l'expression du temps. Dans d'autres langues, il n'y a pas cette propriété. Dans certaines langues, le verbe se déplace jusqu'au complémentaire, jusqu'au début de la phrase. C'est les langues qui ont le phénomène qui est appelé V2, verbe en deuxième position, comme les langues germaniques. Il doit y avoir une manière de traiter la différence entre les langues SVO, sujet, verbe, objet, et les langues VSO, verbe, sujet, objet, comme les langues celtiques, par exemple. Là, il y a une différence paramétrique qui a été utilisée par Koopman et Sportisch, par exemple. Il y a, en ce qui concerne les systèmes d'anaphores, des langues qui admettent des anaphores de longue distance, donc des langues où, si on pense à un élément comme « se », genre « se voit », il y a des possibilités pour un élément anaphorique de ce type d'aller chercher son antécédent, non pas dans la même phrase, mais dans une phrase plus haute dans la structure, ce qu'on appelle des anaphores à longue distance. l'islandais, par exemple. Et donc là, il y a une différence paramétrique aussi à identifier. Une autre différence qui avait été discutée dans ces premiers temps en termes paramétriques est le fait que dans certaines langues, le mouvement interrogatif est obligatoirement visible, l'anglais par exemple. Dans d'autres langues, comme le chinois, typiquement est invisible ou caché, c'est-à-dire nous avons des structures in situ. La seule possibilité est quelque chose comme « j'en vu qui », n'est-ce pas, sans mouvement de l'élément interrogatif. Puis un autre paramètre, le dernier paramètre de cette petite liste qui avait été discuté dans ces premiers temps, c'était le paramètre de la configurationnalité. C'était lié à l'étude par un linguiste de MIT, Ken Hale, des langues aborigènes d'Australie. Ce qui caractérise ces langues est une extrême variété dans l'ordre possible des mots. Alors, l'idée que Hale avait conçu pour rendre compte de cette très très grande liberté, c'était de dire bah, peut-être ces langues ne sont pas configurationnelles au même sens où l'anglais ou même l'italien ou le français, etc. Sont, mais ces langues suivent des principes d'organisation beaucoup plus libres qui sont la cause de cette beaucoup plus grande liberté pour laquelle vous voyez un déterminant qui doit être mis en relation avec un nom qui se trouve à distance, puis vous avez un verbe, mais l'objet peut se trouver pratiquement n'importe où par rapport à ce verbe, ainsi de suite. Ça, c'est le type de liberté dont on parle quand on se réfère au caractère non configurationnel. Voilà, donc ça, c'était un peu le cadre vers la moitié des années 80, ou quoi, moitié ou même fin des années 80. Voilà, il y avait quelques problèmes, évidemment, avec ce modèle. Vous avez vu la liste qu'on vient de discuter. C'est une liste assez arbitraire. Ça avait l'air assez arbitraire. On n'avait pas vraiment l'impression de pouvoir identifier un principe organisateur indiquant quelles sont les limites sur la paramétrisation possible. On avait l'impression que plus ou moins tout pouvait être paramétrisé. Néanmoins, on savait que certains principes ne semblait pas admettre une paramétrisation. Par exemple, le critère thématique, le principe qui exige qu'il doit y avoir une correspondance entre rôle thématique et argument. Un rôle thématique doit être assigné à un argument et un argument doit recevoir un rôle thématique, fondamentalement. Ce type de principe ne semblait pas admettre une véritable paramétrisation. Et puis il y avait d'autres problèmes. Par exemple, certains paramètres étaient clairement liés à la présence dans le lexique fonctionnel d'un certain élément. Par exemple, cette histoire d'anaphore de longue distance est liée à la présence d'un certain élément, comme sig en islandais, qui permet cette opération. Donc là, c'était une différence clairement lexicale. Et puis certains paramètres comme la non-configurationnalité se sont révélés décomposables, réanalysables en des paramètres plus petits. Hein. Donc si vous comparez d'un côté l'anglais, de l'autre côté les langues australiennes, vous avez l'impression d'une dissociation totale de propriétés. Mais en effet, si on compare plusieurs langues, on trouve toutes sortes de cas intermédiaires. En effet, l'italien, on l'a vu, est déjà un cas intermédiaire entre l'anglais et la langue australienne parce qu'il admet beaucoup plus de possibilités de positionnement pour le sujet, n'est-ce pas ? Et d'autres propriétés très locales, très limitées, peuvent définir des degrés différents dans ce paramètre. Donc la manière dans laquelle on a commencé à regarder ce phénomène, ce n'était pas en termes d'un grand paramètre opérant une distinction radicale entre deux types de langues, mais plutôt des paramètres plus petits qui déterminaient propriétés plus limitées. Mais en mettant ensemble plusieurs propriétés limitées, on avait les cas extrêmes de cette sorte de continuum. Voilà, donc la différence importante qui a été introduite à partir de fondamentalement la deuxième moitié des années 80, et puis avec le programme minimaliste dans les années 90, c'était un changement important de l'hypothèse sur le locus de paramètres. Les locus de paramètres, initialement, on disait, étaient plutôt sur les principes, donc les principes pouvaient être paramétrisés. Tandis qu'avec cette conjecture à laquelle on se réfère comme la conjecture de Borer et Chomsky, on fait plutôt l'hypothèse que les paramètres sont exprimés dans le lexique. Donc le lexique, et en particulier le lexique fonctionnel, est le lieu d'expression des propriétés qu'on veut caractériser comme les propriétés paramétriques. Donc c'est assez différent par rapport à l'idée qui voyait les paramètres comme étant définis sur les principes. Voilà, donc le type de formulation qu'on peut donner, étant donné ces deux spécifications, le format des paramètres et le locus des paramètres, je crois que dans le système actuel, on peut dire quelque chose comme ça. D'abord, on peut identifier un paramètre comme une instruction pour une certaine opération syntaxique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un paramètre ? C'est une instruction pour déclencher une opération syntaxique. Par exemple, pour déclencher le mouvement. Cette instruction peut être exprimée comme un trait spécifié sur un item du lexique. Donc, on arrive à une formulation extrêmement simple des deux notions du format et du locus des paramètres. Pour les formats des paramètres, le format général est simplement l'item lexical X du lexique, ou peut-être du lexique fonctionnel, a le trait F, ou bien il ne l'a pas. Donc, a ou n'a pas un certain trait. Et le trait F est une instruction pour une certaine opération syntaxique. Et le locus de paramètre, c'est simplement le lexique. Donc toute la paramétrisation est exprimée dans le lexique. Et peut-être avec la restriction d'exprimer ça dans le lexique fonctionnel. Voilà, ça c'est la perspective sur les paramètres que j'ai proposé dans deux articles plus ou moins récents. En particulier, je vous conseille la lecture de ce numéro spécial de la revue Linguistic Analysis. Et c'est un numéro spécial dédié effectivement au statut des paramètres dans les cadres linguistiques actuels. Et c'est un numéro spécial édité par Massimo Piatelli Palmarini et Simin Karimi, qui contient beaucoup de travaux intéressants. Je vous suggère en particulier celui de Guglielmo Cinque et celui de Giuseppe Longobardi, qui parlent de certaines propriétés dont je parlerai par la suite, et aussi mon propre article, où je propose pour l'essentiel la théorie qui est présentée dans cette diapositive. Une manière possible, très simple, de voir la paramétrisation. Je pense que je vais continuer pour encore une ou deux diapos, parce que j'ai l'impression que pour aujourd'hui, nous avons assez présenté des matériaux. Mais peut-être on peut encore discuter de cela, de brièvement voir cette question de la numérosité des paramètres. Donc, dans l'approche initiale, dans l'approche où les paramètres étaient formulés sur le principe, l'ordre de grandeur des paramètres était déterminé par le nombre de principes. Donc, comme il y avait environ une dizaine de principes, on s'attendrait au maximum aux quelques dizaines de paramètres. Donc, un petit nombre. Si, par contre, en suivant la conjecture de Chomsky-Borer, les paramètres sont exprimés dans le lexique, la taille change radicalement, n'est-ce pas ? Parce que le lexique est un domaine très vaste. Même si on se limite aux paramètres, au lexique fonctionnel, donc une version limite la paramétrisation au lexique fonctionnel, quoiqu'il y a certains cas qui me semblent très difficiles à traiter de cette manière, même si on dit que uniquement le lexique fonctionnel est le locus des paramètres, on a quand même un grand nombre d'éléments, parce que quelle est la taille du lexique fonctionnel ? Bon, nous avons ces deux lexiques, n'est-ce pas ? Le lexique de contenu et le lexique fonctionnel. Le lexique fonctionnel est quand même assez vaste. Si on regarde des études en typologie linguistique, par exemple, où les typologues regardent ce qu'ils appellent les cibles de la grammaticalisation, donc les éléments qui peuvent devenir des éléments du lexique fonctionnel, on voit qu'on est dans l'ordre des centaines. Et si on regarde le travail cartographique auquel j'ai fait quelques références et sur lequel je reviendrai, on est dans cet ordre de grandeur, plusieurs centaines, en effet, d'éléments du lexique fonctionnel. Ce qui veut dire que si chaque élément du lexique fonctionnel peut contenir un ou un petit nombre de paramètres, nous avons un nombre considérable. Non seulement, si aussi le lexique de contenu est admis comme locus possible pour les paramètres, nous sommes certainement dans l'ordre des milliers. Donc, les attentes sur la numérosité des paramètres varient considérablement, et étant donné le travail comparatif les derniers 20 ans, en gros, il paraît clair qu'on a besoin d'un grand nombre de paramètres. Peut-être que je vais encore rapidement discuter une dernière slide, et puis on reprendra ce sujet la semaine prochaine. Voilà, une critique qui a été formulée souvent, en particulier dans ce travail de Fritz Neumeier, mais il y a eu beaucoup, en effet, de critiques, concerne justement la numérosité des paramètres qui est rendue possible par ce type d'approche, n'est-ce pas ? La critique a été, si on introduit, ce qui était beau dans la première version de la théorie paramétrique, c'était le petit nombre de points où les langues pouvaient varier. Mais si on a un système qui a des centaines, voire des milliers de paramètres possibles, évidemment, le système est beaucoup moins restrictif dans sa caractérisation de la variation. Et donc, par exemple, Neumeier dit, fondamentalement, on pourrait revenir à parler du système de règles, parce que si nous avons autant de paramètres, c'est peut-être pas correct de parler de paramètres, il faut parler vraiment de règles qui sont spécifiques d'une certaine langue. Voilà, c'est une critique très fréquente, mais je pense qu'elle n'est pas correcte, pour la raison suivante. C'est pour cela que j'ai beaucoup insisté sur cette distinction entre le locus et le format des paramètres. Donc, si on adopte un point de vue comme celui que j'ai illustré ici, effectivement, le locus des paramètres est très permissif, est très généreux, parce que c'est le lexique fonctionnel, le lexique tout court. Donc, il y a beaucoup d'options pour le paramètre. Néanmoins, le format des paramètres, donc ce que c'est qu'un paramètre, un trait qui donne une instruction pour déclencher une certaine opération syntaxique, le format est extrêmement restrictif. Il y a très peu de choses qu'on peut exprimer par les paramètres parce que la syntaxe, donc l'ensemble des ingrédients par rapport auxquels les paramètres peuvent être des déclencheurs, est très restrictive. Il y a très peu d'opérations qu'on peut déclencher dans la syntaxe minimaliste. Donc, il y a très peu de choses qu'on peut exprimer dans chaque paramètre. Donc, si d'un côté, le locus est généreux et permissif, le format est extraordinairement restrictif. Et donc, l'espace de la variation possible est radicalement réduit. Même si on a beaucoup de possibilités pour exprimer des paramètres, par le fait que l'ensemble d'opérations qu'on peut déclencher est extrêmement réduit et limité, et aussi limité et réduit que la syntaxe minimaliste. Donc, fondamentalement, on va parler de cela la prochaine fois. Il y a trois types de paramètres. Il y a des paramètres de merge, fondamentalement, des paramètres d'assemblage externe. Il y a des paramètres sur le mouvement, et donc d'assemblage interne. Et il y a des paramètres sur l'externalisation. On va discuter ça la prochaine fois. Donc, sur la possibilité d'exprimer, de prononcer ou de ne pas prononcer certaines positions, dont le paramètre du sujet nul, par exemple, où on a le droit de ne pas prononcer une certaine position qui fait partie d'une représentation syntaxique néanmoins. OK, très bien. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais faire aujourd'hui, mais je pense qu'il y a assez de matière qui a été mise à disposition. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, on reprend la semaine prochaine ce point de la paramétrisation. Et puis, on repart avec la cartographie. Merci à vous pour votre présence.